9 mars 1989, disparition à la fête foraine de Çarşıbük de Naim Mazibas, une fillette de 10 ans d'origine turque. Elle a été retrouvée dans une rivière, le cou et les pieds liés à des blocs de béton. Au niveau d'une station essence Q8, l'affaire a été classée très rapidement par le parquet dès le 8 octobre 1990. Le père de la fillette avait repéré deux rochettes qui donnaient des jouets aux petites filles au marché de Çarşıbük, un quartier du nord de Bruxelles, et l'avait alpagué une semaine avant la disparition de sa fille. X1 a identifié la fillette lors d'une de ses premières auditions et a donné des précisions en avril 1998, mais devant des policiers qui ne la croyaient pas. Elle a expliqué que la fillette turque a été tuée lors d'une partie de chasse dans les Ardennes. Mais la PJ de Bruxelles a conclu que la petite Naïm n'avait jamais croisé la route de Dutroux et le dossier n'a pas été rouvert. 26 avril 1989, jugement de la cour d'appel de Mons contre Dutroux, défendu par maître de Kevi, pour les faits de viol, de séquestration de mineurs de 13 à 17 ans et de vol. Il prend 13 ans et 6 mois de prison. Michel Martin prend 5 ans. Ils sont jugés en même temps qu'un dénommé Van Petegem, qui a pris 6 ans. Dès sa sortie de prison en septembre 1991, il a été écrasé par un bus communal de la ville de Liège et en est mort. Encore une fois, il a bénéficié d'un traitement de faveur dans un pays certes particulièrement tolérant en matière de pédophilie. Le couple a été jugé en correctionnel sur décision du parquet général, alors que le substitut de Charleroi voulait les juger aux assises. 9 mai 1989, arrestation du truand Patrick Emmers au Brésil. Il a été rapatrié en Belgique où il s'est suicidé en prison le 14 mai 1993. Toxicomane, il avait été privé brutalement de son traitement de substitution par le médecin de la prison et la presse l'a décrit dépressif et démoralisé, mais bon, beaucoup pensent qu'il a été assassiné. Il savait beaucoup de choses sur beaucoup de monde au sujet des tueries du Brabant, des milieux d'extrême droite, du trafic d'armes et de drogue, mais aussi du système pédocriminel belge. 1989, Regina Louf, X1, participe en tant que comédienne à une formation sur les techniques d'audition de victimes d'abus sexuels à l'école royale de gendarmerie, organisée par la BCR, Brigade de recherche de la gendarmerie. Fin 1989, Newell monte sa boîte de vente de poissons en gros après avoir fait 5 mois et demi de prison. De l'argent d'une société panaméenne a été investi dans la boîte via l'avocat Van der Els. La société est devenue DCN, Benelux SA, et avait comme administrateur sa copine Marlène D. Forgot et un dénommé de la Motte. Elle a été revendue en 1992 et a été délocalisée en Irlande et le trafiquant de drogue Casper Flier en est devenu administrateur délégué. Côté belge, elle s'appelait la Maison des Chefs où Newell était toujours employé en 1996 et qui lui a valu un redressement fiscal de 1,2 million d'euros pour faillite frauduleuse qu'il n'a jamais payé. Flier et justement celui qui a été accusé de fournir les pilules d'extasie à Newell, qui selon les enquêteurs devait servir à rémunérer des enlèvements de mineurs commis par Newell et Le Lièvre. En 1993, il avait rencontré Le Lièvre en prison et lui a offert un job dans sa station-service à Ante, où ont été vus Dutroux et d'autres membres de son entourage. En 2010, il a été arrêté à Amsterdam pour trafic international de cocaïne. Le 7 décembre 1989, Marc Dutroux engrange une remise de peine collective de 6 mois. Il en a une autre en 1990 et encore en 1991. 20 décembre 1989, disparition d'Elisabeth Brichet à Saint-Servais. Ce meurtre est attribué à Fourniret par Monique Olivier et la justice française. Mais Dutroux en a été soupçonné pendant un bon moment. Au sujet des connexions de Fourniret avec la Belgique, l'enlèvement d'Estelle Mouzin, comme beaucoup d'autres disparitions de mineurs à l'époque, est toujours irrésolu et on n'a jamais retrouvé son corps. Aujourd'hui, les avocats du père d'Estelle Mouzin pensent que Fourniret est impliqué dans sa disparition et une enquête est menée à ce sujet par une juge d'instruction. 13 janvier 1990, Dutroux, délinquant primaire, est au tiers de sa peine. Il est théoriquement libérable. 25 avril 1990, création d'un poste de marginal national pour centraliser toutes les enquêtes sur la grande criminalité. Le 7 septembre 1990, seconde remise de peine collective de 6 mois pour Dutroux. 26 janvier 1991, disparition de Nathalie Geisbrecht, un chauffeur de camion hollandais, pédocriminel connu, a été soupçonné de l'enlèvement, mais il est mort en prison en 2009. En 1992, le dénommé Michel Stocks a été condamné pour le meurtre d'une fillette hollandaise de 11 ans et de deux garçons allemands de 9 et 13 ans. Il avait été entendu plus de 250 heures par 6 enquêteurs belges quelques mois plus tôt, mais n'a jamais avoué ce meurtre. Son corps n'a jamais été retrouvé. 19 juin 1991, troisième remise de peine collective de 6 mois pour Dutroux. 14 octobre 1991, libération de Raumekers, apparemment avec pas mal d'argent puisqu'il loue un bureau de prêt à court terme à 22%, qui sentait l'escroquerie, avenue Louise à Bruxelles, et fait des voyages, notamment au Paraguay, où il y a plus tard déclaré avoir créé une banque, et au Nigeria. Il a expliqué en 1997 à des journalistes qu'il avait eu l'argent nécessaire en vendant des cassettes pédopornographiques. 15 novembre 1991, disparition de Vinciane Gosset à Namur, retrouvée assassinée le 6 décembre 1991. 17 décembre 1991, disparition de Catherine de Kuiper à Brachat, dont le corps a été retrouvé lors de travaux de terrassement dans la zone portuaire d'Anvers le 22 juin 1992. X1 expliquera plus tard qu'elle était dans le réseau. Elle a été vue pour la dernière fois au café Les Routiers, où elle appelait ses parents pour prévenir qu'elle aurait un peu de retard. Ce café est à deux pas de là où ont disparu Kim et Ken Ehrman deux ans plus tard, en janvier 1994. Or, une société de pornographie hollandaise avait son siège juste au-dessus, dans lequel la police a retrouvé les coordonnées d'un pédo hollandais impliqué dans le réseau Zandvoort, Robbie van der Planken, condamné en 1998 pour avoir assassiné un autre pédo, Gerrit Ulrich, avec lequel il avait une relation. Le dit Ulrich a aussi régulièrement effectué des virements d'argent vers cette société hollandaise. 30 décembre 1991, disparition d'Inge Bruegelmans, 15 ans, à Wulstwelzel, près d'Anvers. Ce meurtre, ainsi que celui d'Inès van Mulder, disparu dans le même secteur à la même époque, ont été avoués par un pédo hollandais en 1992, qui a cependant toujours nié son implication dans l'assassinat de Catherine. Les parents des deux adolescentes n'ont pas pu voir les corps. Après 1992, quand les autorités refusent de voir l'évidence. Le 1er janvier 1992, démilitarisation de la gendarmerie, loi du 19 juillet 1991, qui est englobée dans la police. 27 janvier 1992, Marc Dutroux a accompli la moitié de sa peine, donc 6 ans. C'était un prisonnier modèle, avec assez de relations dans la prison pour choisir son codétenu, selon le témoignage de l'un d'eux présenté dans le dossier X, et même revenir de permission avec 48 heures de retard. Il a des permissions de sortie et des congés pénitentiaires pour préparer sa réinsertion. L'unité d'observation et de traitement est favorable à sa libération conditionnelle. Selon les dossiers X, Dutroux refuse le suivi psychosocial, mais il est prêt à se faire suivre, après sa libération, par le docteur Émile Dumont, qui a près de 70 ans à l'époque. C'est un médecin uclois chez qui Michel Martin avait essayé, pendant l'instruction, d'obtenir un rapport d'irresponsabilité. Il prescrit à volonté du Rohypnol et de l'Aldol, des pilules contraceptives aussi, en triple ration à Martin pendant des années. Plus tard, Dutroux en revendra même à Michel Newell. Ces drogues ont été utilisées pour endormir les victimes. C'est ce Dumont qui a permis à Dutroux de bénéficier d'une pension invalidité à 66% pour nervosité. Et justement, toutes les procédures judiciaires contre lui rendent nerveux. 12 mars 1992, Desrochettes est libéré. Mars 1992, débat sur la libération conditionnelle de Dutroux. Le procureur général de Mons, Monsieur Demanet, y est hostile. 6 avril 1992, par arrêté ministériel, le ministre de la Justice Melchior Wathelet, membre du Parti socialiste chrétien, qui selon certains témoins a rencontré Dutroux et selon certains témoins était dans le réseau, décide de remettre Marc Dutroux en liberté conditionnelle. Les conditions étaient se soumettre à une guidance sociale stricte. Le dernier rapport de la guidance sociale a eu lieu le 17 juillet 1996. Poursuivre de façon régulière le suivi médico-psychologique auprès de Dr Dumont. Indemniser les victimes de Dutroux, dont Dutroux a vite arrêté les versements. Ne pas fréquenter de débits de boissons ni d'anciens détenus étrangers à sa famille. Apporter la preuve d'une occupation et de revenus réguliers. Dès sa sortie, il s'est activé à la construction de ses caches. Avril 1992, Dutroux demande à un copain braqueur, Patrice C., de mettre le feu à sa maison de la rue Jules de Stray à Marchiennes-au-Pont pour toucher l'assurance. Ça lui a rapporté 1,3 million de FB et il a pris 3 ans de prison en mars 2002 pour le complice. Selon le soir du 8 septembre 2003, en cellule, les deux hommes eurent de longues discussions sur la conception de cette cache parfaite. Jamais Dutroux n'indiqua à Charbonnier qu'il s'agirait d'y cacher des enfants. « Nous nous demandions quelle serait la porte la plus secrète possible », indiqua Dutroux lors d'un de ses interrogatoires consacrés à ses relations avec Patrice Charbonnier. En avril 1992, après avoir purgé 7 des 12 années de prison qui lui avaient valu plusieurs viols et séquestrations de jeunes gens, Dutroux reprit contact avec son vieil ami et comparse Charbonnier. Les deux hommes reprirent leur conversation sur la conception de la cache parfaite. Charbonnier avait déjà réalisé la sienne. Dutroux se rendit à Trazegnies pour y découvrir le modèle de la cache qu'il comptait réaliser. Charbonnier, qui s'était reconverti dans l'installation de systèmes d'alarme, fit part de son expérience à Dutroux. Il lui enseigna aussi la soudure. À une dizaine de reprises, Dutroux revint à Trazegnies. Michel Martin l'accompagnait parfois. Elle confiera aux enquêteurs que Dutroux estimait que la cachette de son comparse était très bien. Charbonnier lui-même vint à Marcinelle. Des témoins le virent travailler avec Dutroux, ce que l'ex-facteur nie. 1er juin 1992, premier rapport d'enquête sociale de Dutroux sur base d'entretien ayant eu lieu le 28 avril, le 4 et 5 mai 1992. Avril 1992 à mars 1993, entretien de guidance sociale mensuel pour Desrochettes. Le service de réinsertion sociale ne connaissait pas ses antécédents et tout se passait bien. 5 août 1992, enlèvement de Loubna Benaïssa. D'abord considéré comme une fugue pendant 6 jours. Son corps a été retrouvé en mars 1997 seulement, dans une malle dans la cave de la station d'essence Desrochettes à Bruxelles. Le père Desrochettes fréquentait le Stanley, le bar de Bruxelles où se croisaient les anciens coloniaux du Congo, les milieux d'extrême droite, les barbouzes et les pédocriminels dont Dutroux et Nioul qui étaient par ailleurs des clients de la station-service Q8 de Desrochettes. 14 août 1992, vacances de Dutroux dans le sud de la France, notamment à Marseillan où il vole un véhicule Renault Master. 28 août 1992, enlèvement de Laurence Mathieu, 16 ans, retrouvée morte le 8 septembre 1992 à Fernelmont. Elle avait un job d'été au parc Walibi et son corps a été retrouvé le 7 septembre à plusieurs dizaines de kilomètres. La presse a dit qu'elle a été tuée par des barbituriques dans les 24 heures après sa disparition. Selon Dutroux, son ancien camarade, accessoirement indique de la police Claude Thirault, était mêlé à cet enlèvement. L'affaire n'a toujours pas été résolue, mais les traces de médicaments retrouvées dans le sang sont identiques aux médicaments que l'on a retrouvés en quantité chez Dutroux et dont il se servait. Novembre 92, Attentat à la pudeur de Dutroux sur des mineurs à la patinoire de Charleroi. Il est interpellé et relâché après un simple contrôle d'identité. 25 décembre 1992, disparition de Marie-Anne Guillot à Tilf. Son corps est retrouvé le 12 janvier 1993, près de Visé. 7 avril 1993, dernier rapport d'assistante sociale. Le travailleur social chargé de Dutroux change d'affectation et n'est pas remplacé. Fin août 1993, l'informateur non enregistré Claude Thirault contacte la gendarmerie pour signaler que Dutroux aménage des caches dans sa cave, à la place d'une ancienne citerne, à Marchiennes-au-Pont, dans le but de séquestrer des jeunes filles d'une douzaine d'années. Il précise que Dutroux aménageait ses caves pour y loger des enfants avant de les envoyer à l'étranger et qu'il lui a proposé 150 000 FB par fille pour enlever deux fillettes à une fête de village. Octobre 1993, divers dossiers sont ouverts à Charleroi contre Marc Dutroux pour vol et entre autres une information judiciaire au parquet et une instruction chez le juge Laurent portant le numéro 1003/93, le procureur général de Mons est informé de ces faits, mais sans qu'un rapprochement soit fait avec sa condamnation et sa libération conditionnelle. Le 8 novembre 1993, dans le cadre du dossier 1003/93 du juge Laurent, la brigade de gendarmerie de Charleroi effectue une série de perquisitions dans les maisons occupées par Marc Dutroux, 43-45 rue de Rubigny à Sars-la-Brousière, Buisière, 17 rue Jules Destré à Marchiennes-au-Pont, 128 avenue de Philippeville à Marcinelle, 27 rue Lenoble à Jamep-sur-Sambre. À Marchiennes-au-Pont, les gendarmes cherchent à vérifier les affirmations de Thirault et constatent que des travaux sont bel et bien en cours. Marc Dutroux en donne une explication aux gendarmes qui prennent cependant une série de photos. Leur PV, très précis, fait état de terrassement à une profondeur de 1,50 m et du creusement de deux galeries. Le général de gendarmerie D, R, écrira dans une lettre du 22 août 1996, je cite, « L'absence d'éléments lors de la perquisition, l'explication plausible donnée par Dutroux et l'absence d'autres informations concernant une éventuelle activité délictueuse de Dutroux tendent alors à infirmer l'information reçue. » Le 26 novembre 1993, la brigade de gendarmerie de Charleroi retourne en perquisition à Jemeppe-sur-Sambre. 6 décembre 1993, courrier du médecin traitant de Dutroux qui raconte au médecin conseil de l'organisme qui verse les allocations le calvaire de Dutroux afin de justifier les aides sociales qu'il réclamait. Je cite « J'ai examiné Marc Dutroux régulièrement depuis le 28 novembre 1991 jusqu'au 10 août 1993. Je l'ai encore revu le 23 novembre 1993. Depuis mon dernier rapport, l'état nerveux ne s'est pas amélioré. Au contraire, il se plaint toujours de céphalées, difficultés de concentration, asthénie, amaigrissement considérable, état dépressif qui s'est encore aggravé ces dernières semaines à la suite d'une perquisition effectuée par la gendarmerie à son domicile. Marc Dutroux reste toujours agressif avec des tendances à des colères explosives. » Dutroux a donc été reconnu incapable de travailler, le pauvre. Il a même reçu un super traitement remboursé par la Sécurité sociale, produit qu'il utilisait massivement pour droguer ses victimes au final. 10 décembre 1993, les perquisitions n'ont pas confirmé les tuyaux de l'informateur. Mais les gendarmes de la brigade de Charleroi, leur laissant cependant un certain crédit, et ils sont convaincus que Marc Dutroux est impliqué dans divers vols et dans des recels. Ces opérations ont au moins eu le mérite de faire cesser les travaux d'aménagement de la cache dans sa maison de Marchiennes-au-Pont. Avec l'espoir de localiser ces dépôts, les gendarmes ont demandé au juge d'instruction Laurent de Charleroi d'autoriser une opération de surveillance baptisée « Opération de CIM » que le POSA, peloton d'observation de soutien et d'arrestation, devrait mener à bien. Le 13 décembre, le juge Laurent accepte cette proposition. Donc le 13 décembre 1993, début de l'opération des CIM, la gendarmerie reçoit l'autorisation du juge d'instruction Laurent d'effectuer des observations chez Dutroux, mais omet de lui dire qu'il cherche a vérifié les déclarations de Thiraud au sujet des caches et des enfants. 5, 6 et 12 janvier 1994, le 5 de 9h à 15h, le 6 de 10h à 16h et le 12 de 15h à 21h45, le posa de Charleroi surveille Marc Dutroux. Rien de suspect n'est révélé à l'occasion de ses observations et filatures. 16 février 1994, l'opération des cimes est clôturée. Un rapport en est fait à l'intention du juge d'instruction Laurent avec copie au procureur du roi. Le 7 mars 1994, le parquet de Charleroi demande au ministère de la Justice si Dutroux respecte bien les conditions mises à sa libération. Le 15 mars, le ministère répond que rien ne prouve le contraire. 16-17 avril 1994, Dutroux est en Allemagne, puis en Tchécoslovaquie. Il rentre le 3 mai. Mai 1994, Newell a expliqué avoir été contacté en mai 1994 par Jean-Louis Delamotte, qui fréquentait le Dolo, pour travailler pour sa société ASCO, Achat Service Commerce, à Aunesie, qui s'occupait d'acheter et vendre des véhicules d'occasion principalement à destination de l'Afrique. Elle explique. Étant administrateur de la dite société, Jean-Louis Delamotte, Forgeau Michel Marlène Dip, qui a remis ses parts en 1994 à Fernand M, lequel obtient 50% de la société, et une autre dame dont j'ai oublié le nom. En juin 1994, Newell est allé à Saint-Domingue pour prendre des contacts dans le cadre de son job de vendeur, puis il dit avoir cessé en juillet 1994 parce qu'il n'a pas été payé. Il se trouve que des Mercedes blanches qui tournaient autour des écoles dans plusieurs villes du pays à l'époque du scandale Dutroux appartenaient à cette société ASCO et avaient de fausses plaques d'immatriculation françaises. Selon le témoin Nathalie W, qui dénonce aussi Delamotte comme agresseur, la société faisait aussi du trafic d'armes et selon X1, des snuff movies y ont été tournés. L'enquête a également montré que des jeunes femmes d'origine étrangère, probablement d'Amérique latine, logeaient temporairement à l'étage au-dessus de l'entreprise. 27 mai 1994, Dutroux repère en Tchécoslovaquie. Il y retourne en juillet et en août. On sait qu'il a ouvert des comptes bancaires en Slovaquie. 13 juin 1994, les gendarmes de Charleroi procèdent à nouveau, sur ordre du juge Laurent, à des perquisitions dans les habitations déjà visitées le 8 novembre 1993. À Marchiennes au pont, les gendarmes constatent que les travaux n'ont pas avancé depuis cette date. Été 1994, Diaco Stavrianos, complice de Dutroux pour le trafic de voitures et d'adolescentes, est à Montpellier. Août-septembre 1994, Dutroux est en Slovaquie, probablement avec plusieurs voyages. 15 décembre 1994, disparition de Sylvie Carlin, 19 ans. Cette affaire n'est toujours pas résolue, son corps n'a toujours pas été retrouvé. Diaco Stavrianos, notamment, était dans son entourage. Un voyant a tout de même retrouvé certains de ses vêtements enterrés dans une autre région au milieu d'un bois, mais la police a mis 6 ans pour répondre que ce n'était pas les siens contre l'avis de sa famille. Janvier 1995, Raham Akers prend 15 ans de prison pour la séquestration et les viols de 3 fillettes. 24 mars 1995, date officielle de la mort de Julie et Mélissa qui auraient été enterrées le 27 mars. 2 avril 1995, disparition à la sortie d'une boîte de nuit, la Luna à Charleroi, de Jean-Paul Tamignot avec sa voiture. Il venait de reprendre la gestion d'un bar à filles avec sa compagne Nadège Bernard, qu'il avait quitté en janvier. Leur bar était situé 125 rue de Montigny à Charleroi, à 600 mètres d'une des maisons où Dutroux aménageait des caves, au 128. Son corps a dû être découpé puisqu'on a retrouvé un pied dans un canal. 14 juin 1995, le jour des élections, on apprend dans la presse que les enquêteurs de la cellule de Neuchâteau ont visionné des cassettes retrouvées lors de la perquisition chez Dutroux le 13 décembre 1993. On y verrait Dutroux en train de violer une jeune fille droguée et construire des caches dans sa cave. Au sujet de ces cassettes, la sénatrice Anne-Marie Lizin a déclaré à des journalistes en octobre 1993 que, je cite, « Nous étions en discussion, Jean-Denis Lejeune et moi, avec Elizabeth Yor et John Rowbun de Missing Children aux États-Unis, quand un coup de fil est arrivé. C'était un gendarme belge, un certain Patrick du BCR, Bureau Central de Recherche, et qu'il parlait de l'affaire du trou, les Américains ont branché le haut-parleur. C'est ainsi que nous l'avons entendu dire que des cassettes pédophiles avaient été saisies et qu'il y avait des personnalités politiques dessus. Elle a aussi expliqué ensuite que les gendarmes du BCR étaient en contact étroit et régulier avec les services américains, CIA et FBI, dans les locaux de l'ambassade américaine de Bruxelles, mais qu'il n'y avait pas de personnalité politique. Par ailleurs, dans un article du quotidien Le Soir, daté du 16 mars 2004, le journaliste Mark Metdepeningen précisait même que la caméra était tenue par Michel Martin, l'épouse de Dutroux, et qu'elle s'attardait sur le violeur et sur des personnes qui y assistaient et qui étaient au nombre de 15 à 20. Les enlèvements, toutes les informations sur Dutroux étaient déjà dans les tiroirs. 24 juin 1995, donc, enlèvement de Julie et Mélissa à Grasse-Hologne. L'affaire est mise à l'instruction 2 jours plus tard chez le juge d'instruction Martine Doutreux. 26 juin 1995, l'informateur Thiraud rencontre le gendarme Pétens et lui rappelle les informations de 1993. Opération Décim, PV 1101/99 à la cellule de Neufchâteau. 7 juillet 1995, la brigade de gendarmerie de Charleroi adresse un fax à la brigade de Grasse-Hologne qui enquête sur la disparition de Julie et Mélissa pour lui communiquer les informations rassemblées sur Marc Dutroux dès octobre 1993. 17 juillet 1995, la brigade de Grasse-Hologne demande au Bureau central de renseignement, BCR, de la gendarmerie à Bruxelles de lui fournir tous les renseignements dont il dispose sur Marc Dutroux. Le BCR répond à cette demande le 27 juillet 1995 en envoyant les photos et la documentation disponibles à Grasse-Hologne, fax du gendarme B de Charleroi vers la gendarmerie de Liège au sujet de l'enlèvement de Julie et Mélissa. Juillet 1995, voyage de Lelièvre en Slovaquie. 26 juillet 1996, mort de François Reskens, 28 ans, passé sous un train 2 heures avant d'être entendu par les gendarmes de Seraing sur la disparition de Mélissa après être tombée en panne à Amiens. Il avait appelé les parents des fillettes qui ont prévenu la gendarmerie. Selon son père adoptif, il avait croisé Julie et Mélissa aux Pays-Bas après leur enlèvement. L'enquête a conclu au suicide. 28 juillet 1995, la brigade de Grasse-Hologne accorde de l'importance aux informations lui provenant de la brigade de Charleroi. Elle adresse donc un fax à la BSR de Charleroi pour lui demander un contrôle discret des véhicules de Dutroux et Martin, la communication de toutes les informations utiles en rapport avec un éventuel trafic d'enfants vers l'étranger, des informations sur la manière dont la brigade de Charleroi a pu contrôler la destination des travaux engagé à Marchiennes au pont, la transmission de tous les PV en rapport avec les viols et les autres comportements suspects commis par Dutroux. Fin juillet, début août 1995, les gendarmes de Grasse-Hologne affirment que dans cette période qu'ils informent le juge d'instruction Martine Doutreux des soupçons pesant sur Dutroux. La juge soutient qu'elle a été informée, mais à la fin du mois d'août. Un policier situe cet échange d'informations à la fin du congé pris par le juge, qui a pris quelques jours de congé à la fin de juillet et à la fin d'août. Août 1995, rencontre officielle entre Newell et Dutroux par l'intermédiaire de Lelièvre. Cette date est fausse, ils se sont rencontrés au moins 10 ans plus tôt. Selon le comité Julie et Mélissa, je cite, le milieu fréquenté par Lelièvre, dans les mois précédant l'enlèvement de Julie et Mélissa, est à l'évidence un milieu polycriminel, formé de Newell, Bouty, Flier. Inculpé dès les premiers jours de l'enquête chez Strollez pour association de malfaiteurs impliqués dans les enlèvements d'enfants. Lelièvre est à l'évidence, en cette période de l'année 1995, bien plus que Dutroux ou Martin, le maillon effectif entre Newell & Co. et les enlèvements d'enfants. C'est en effet le lièvre qui fera le lien objectif entre les activités criminelles de Dutroux et celles du club Newland Co. Dès mai 1995, le lièvre et Nioul forment une paire dont les activités, drogue, trafic de véhicules, semblent dépasser la simple infiltration du milieu au bénéfice de la gendarmerie de Dinan, ainsi que Nioul l'a prétendu pour se défendre. Le rôle de Lelièvre, qui reconnaît lui-même avoir présenté Dutroux à Nioul, ne pouvait être à ce point minimisé. Mais Lelièvre, ayant constamment été présent à l'opinion grâce au travail de propagande de son avocat et à la crédulité de la presse, comme un simple drogué sous la coupe de Dutroux, de la même manière que le rôle de Martin fut minimisé par le portrait de pauvre victime de son époux que l'on fit d'elle des années durant, son rôle décisif a fini par passer presque inaperçu dans l'affaire des enlèvements d'enfants de 95 et 96. La presse en particulier, par son aveuglement, a largement participé à désinformer l'opinion et à la conditionner pour la préparer, suivant en cela l'objectif final du juge Langlois et de la justice, à l'explication simpliste du pervers isolé. Thèse confortable s'il en est, car ne comportant aucun risque de remise en question d'un système qui préfère ne rien savoir d'une des formes les plus graves d'exploitation humaine que sont les organisations criminelles pédopornographiques, auxquelles des sous-fifres du modèle Dutroux ou Lelièvre appartiennent immanquablement. Mais encore faut-il poser les bonnes questions pour pouvoir le démontrer. Beaucoup s'interrogent sur le rôle réel de Lelièvre, qui était plus actif dans les enlèvements que n'a laissé paraître le dossier final. En tout cas, cette histoire de la rencontre Nioul Dutroux par l'entremise de Lelièvre en août 1995 ne tient pas la route. X1 a expliqué qu'elle connaissait les deux, ainsi que Bernard Weinstein et Michel Martin dans le réseau. J'ai fait leur connaissance par Nioul, cela peut paraître improbable, mais ils se connaissent déjà depuis très longtemps, a-t-elle dit lors d'une audition. Pardon ? Lui a demandé l'enquêteur. Je dis qu'ils se connaissaient déjà depuis très longtemps et que cela peut paraître improbable. Qui vous dites ? Nioul et Dutroux se connaissaient déjà depuis longtemps. Elle explique qu'elle les a rencontrés pour la première fois chez Nioul où sa mère l'avait conduite. Elle ne sait pas dire quand, mais elle connaît Nioul depuis les débuts des années 80. Elle a identifié la maison où elle a été emmenée par lui la première fois, qui s'est avérée être un ancien domicile de Jet Dani B, la compagne de Nioul, qui était présente selon le témoignage X1. Elle a expliqué que ce jour-là, elle a été violée par les adultes et par l'héberger allemand de Dutroux, dont elle donne les noms Brutus et Sultan. Elle a aussi rencontré Van der Elst, le fidèle ami de Nioul, lors de Partouze quand elle avait entre 12 et 15 ans. Elle explique que Nioul a été l'un de ceux qui l'ont initié au meurtre rituel avant l'âge de 12 ans, d'abord sur des animaux, puis sur d'autres mineurs. Par exemple, au sujet de Weinstein, elle dit « Savez-vous qu'un de ses jeux préférés était d'enterrer des animaux vivants ?» C'est vraiment amusant, n'est-ce pas? Au cours du week-end où elle a rencontré Dutroux et Martin chez Nioul à Bruxelles, X1 explique dans son audition du 13 novembre 1996 que de nombreux viols et tortures ont eu lieu avec comme point culminant un rituel où un tirage au sort entre elle et une autre fille a été organisé pour savoir laquelle des deux allait mourir, et cette fille que X1 disait connaître environ un an avant sa mort a été identifiée rapidement par les enquêteurs comme étant Christine Van Ace, assassinée en 1984. Le 4 août 1995, le gendarme Michaud, en charge de l'enquête sur la disparition de Julie et Mélissa, demande au gendarme Pétens de prendre contact avec son informateur Thirault. Nouvelle révélation, Dutroux offrirait de l'argent pour enlever des enfants. La BCR de Charleroi répond par fax à la brigade de Grasse-Olonne que l'informateur du maréchal des logis P confirme les informations qu'il a données 2 ans plus tôt et y ajoute que Dutroux proposait de payer 150 000 francs belges pour une fillette enlevée. 7 août 1995, l'adjudant L du BSR de Serein demande à ses équipes de monter un dossier de leur côté puisque ça ne bouge pas à Charleroi. 8 août 1995, le gendarme V du BCR envoie un fax à toutes les unités de gendarmerie concernées. Objet, disparition Julie et Mélissa. Dans le cadre de la disparition de Julie et Mélissa, vous êtes invité à une réunion organisée le 9 août 1995 à 10h dans les locaux de la BSR de Charleroi. On constate que le nom de Dutroux est déjà ici directement associé à l'enlèvement de Julie. Dans le fax, Julie et Mélissa est suivi du nom de Dutroux. Mais le gendarme V n'envoie pas de copie à la juge d'instruction chargée de l'enquête. L'information restera donc confidentielle au sein de la gendarmerie. Le 9 août 1995, la BCR organise à Charleroi une réunion à laquelle participent les BSR de Charleroi, de Serein, de Thuin et de Namur. Il en résulte que, si d'un point de vue judiciaire, peu de faits concrets pèsent sur Dutroux, d'un point de vue policier, de sérieux soupçons se multiplient. Une attention particulière pour Marc Dutroux est donc demandée à tous les services de gendarmerie présents à cette réunion. Seuls des gendarmes sont présents. Aucun PV n'est rédigé suite à cette réunion. Il y a juste eu un rapport interne datant du 16 août. On ne sait pas trop ce qu'il s'y est dit, mais le sujet portait à minima, selon le lieutenant général de Rieder, sur les enlèvements d'enfants et pas sur l'affaire Julie et Mélissa. On sait aussi que lors de cette réunion du 9 août, le dossier des enlèvements a été retiré à la brigade de Liège et confié à celle de Charleroi, sans que les magistrats de Liège n'en soient informés. Quant à ceux de Charleroi, ils ont seulement été informés que Dutroux est un suspect potentiel. Combien de temps a été perdu suite à ces tergiversations ? 10 août 1995, Claude Thiraud se présente de nouveau devant les forces de l'ordre pour désigner les manigances de Dutroux, cette fois chez le maréchal des logis P. Il répète ce qu'il avait dit début juillet 1995 sur ses discussions avec Dutroux antérieures à juin 1995 et donne d'autres précisions dont il ne s'est souvenu qu'après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Il rappelle les faits de 93, époque à laquelle il travaillait avec Dutroux dans une de ses maisons à Marchienne-Déchaury, ainsi que les déclarations qu'il avait faites au sujet de la cache que Dutroux était en train d'aménager pour y mettre des enfants dans le cadre d'un trafic. Il parle de ce qui s'était passé en juillet 93 à Yves Gomzé, où Dutroux, qui avait repéré dans les rues deux petites fillettes, lui a dit ce que l'on pouvait espérer en gagner et comment il fallait les kidnapper, c'est-à-dire en les tenant avec une main sur la bouche. Il parle ensuite de son dernier contact avec Dutroux, qui était venu le voir chez lui, à Viesville, et lui a proposé de gagner pas mal d'argent en faisant le guet-apens, un gros coup qui était alors en préparation. Cela se passait le 20 juin 1995, juste avant l'enlèvement de Julie et Mélissa le 24 juin 1995. Un autre informateur a déclaré à cette période que Dutroux lui a proposé de travailler pour lui notamment à Sars-la-Buissière et de participer à des raptes d'enfants dans la région de Malines. Malgré ces déclarations précises faites devant une série d'agents des forces de l'ordre entre 93 et 95, il faudra encore un an avant que des liens ne soient faits. C'est seulement en août 96 que Dutroux et deux de ses complices sont arrêtés dans le cadre des enlèvements. C'était après avoir enlevé et séquestré 6 filles, dont 4 sont mortes. 2 seront retrouvées vivantes in extremis. Cette lenteur surréaliste reste une des grandes interrogations dans le traitement ubuesque de l'affaire, restée sans réponse. Mais il est clair que les forces de l'ordre disposaient des informations nécessaires sur les intentions de Dutroux. Et dans ce pays de 11 millions d'habitants, il est peu probable que ce genre de tuyaux arrivait suffisamment en nombre pour être noyé dans la masse. La question légitime est de se demander si les protections de Dutroux, manifestement actives depuis le début des années 80, n'étaient pas encore à l'action. 16 août 1995, le district de gendarmerie de Charleroi demande qu'on interroge Interpol sur les voyages de Dutroux en Slovaquie et en Allemagne. Cette demande a été transmise à Interpol le 18 août. 22-23 août 1995, enlèvement à Ostende de Anne et Effieux, 17 et 19 ans. Le Lièvre dira plus tard qu'il s'agissait d'une commande faite à Dutroux. D'après Michel Martin, elles ont été assassinées début septembre peu après la rentrée scolaire. 24 août 1995, la BCR diffuse à toutes les brigades de Belgique un avis de recherche concernant Dutroux et ses véhicules. Critiqué pour le flou et l'imprécision de cet avis de recherche, la gendarmerie explique qu'à l'époque, seules des dénonciations d'informateurs anonymes pesaient sur Dutroux et qu'à trois reprises, l'opération Décime et deux perquisitions, des tentatives de vérification s'étaient révélées négatives. Le 25 août 1995, le BCR annonce la mise en place de l'opération Othello qui a consisté à observer le domicile de Dutroux sans jamais l'interroger. Les gendarmes ont dit devant la commission d'enquête qu'ils n'avaient pas été interrogés pour ne pas éveiller les soupçons et qu'ils ne s'en prennent pas aux victimes, après avoir dit dans un premier temps que l'opération Othello n'avait rien à voir avec l'enlèvement de Julie et Mélissa. C'est le commandant L de Charleroi, qui avait déjà participé à l'opération Décime de 93-94, qui signe le document de lancement. Le district de gendarmerie de Charleroi adresse un rapport détaillé au substitut Robert du parquet de Charleroi pour lui demander l'autorisation de lancer l'opération Othello. Cette note est présentée dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, car certaines rumeurs persistantes font état du comportement suspect d'un habitant résident sur le ressort du district de Charleroi. Ces rumeurs sont amplifiées depuis la disparition des deux jeunes filles, Julie et Mélissa. La note précise que depuis 1993, et ce à plusieurs reprises, des rumeurs persistantes font état que Dutroux aménage les caves de ses différentes maisons pour y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger. Elle fait référence à plusieurs enlèvements d'enfants, dont celui de Julie et Mélissa, qui à ce moment n'ont toujours pas été retrouvés. Elle mentionne les rumeurs et les dénonciations concernant Dutroux, tout comme l'échec des tentatives de vérification faites jusque-là. Enfin, elle envisage l'utilisation des informations qui seront récoltées également dans une enquête pour trafic d'auto qui est menée parallèlement contre Dutroux. Le même 25 août, le gendarme Guy Goebbels de la brigade de Grasse-Ologne, là où Julie et Mélissa ont été enlevées, est retrouvé suicidé, une balle dans la tête et le téléphone dans une main. Il allait rencontrer la presse pour parler de l'affaire qu'il avait suivie depuis le début et avait eu l'autorisation de sa hiérarchie. Selon les parents de Julie et Mélissa, il était l'un des seuls à parler de pistes pédophiles dans les disparitions. 28 août 1995, début de l'opération Othello, donc première observation de Dutroux et ses domiciles. La première observation de l'opération Othello est menée à bien par le POSA de Charleroi. Les autres auront lieu le 29, 8, 19 septembre et 13 et 16 octobre. La BCR de Charleroi effectuera également un certain nombre de surveillances pendant cette période. Toutes ces opérations auront un résultat négatif, rien de notable n'apparaît d'après les enquêteurs. 5 septembre 1995, le juge d'instruction Laurent de Charleroi reçoit une lettre de la mère de Marc Dutroux, écrite sous son nom de jeune fille et se présentant comme sa propriétaire. Lettre dit que les voisins du Dutroux, je cite, « se plaignent de nombreux va-et-vient nocturnes concernant le trafic de pneus et maintenant de carcasses de voitures, mais aussi du passage des filles entre 16 et 18 ans qui n'ont fait que transiter par cette maison inhabitée mais dont les chambres sont occultées par du plastique noir. En ce temps où des disparitions de jeunes filles se multiplient, je pense que je peux faire moins que de signaler le passage de ces inconnus à JEMEP. » Cette lettre a été transmise au parquet, mais n'a pas été exploité. Le juge demande des renseignements complémentaires aux polices de Charleroi et de Namur. La mère de Dutroux confirmera ses déclarations à la police de Pont-à-Celle. L'un des époux voisins de Dutroux, interrogé en janvier 96 seulement, refusera de confirmer les affirmations de la mère de Marc Dutroux. 31 octobre 1995, ordonnance de renvoi de Dutroux devant le tribunal pour les vols commis entre 92 et 93 et 94. Le procès est fixé en octobre 96, il n'est toujours pas inquiété pour les enlèvements. 2 novembre 1995, le procureur du roi marchandise est informé pour la première fois de l'opération Othello. Il en discute avec la substitute Troc. Qui gère ce dossier et s'interroge beaucoup sur l'identité des informateurs de la brigade de Charleroi. 3 novembre 1995, avec Weinstein, Dutroux séquestre trois adultes dans le contexte d'un règlement de compte autour d'une affaire de vol de camion. L'une d'elles parvient à s'échapper et prévient la police. Dutroux a comparu pour ses faits et des vols le 5 novembre devant la police de Charleroi et n'a été arrêté que le 6 novembre et relâché quelques jours plus tard puisqu'il était fortement soupçonné du viol d'une jeune fille à Aubex. Le 22 novembre, on a trouvé la voiture de Weinstein près des lieux du viol. 5 novembre 1995, mort de Bruno Tagliaferro, ferrailleur qui était en contact avec Dutroux, Weinstein d'Acosta Vrianos, officiellement d'une crise cardiaque, bien qu'un labo du FBI ait conclu à un empoisonnement. Sa femme Fabienne Jopard est persuadée qu'il a été tué, d'ailleurs il s'était armé pour les défendre. Elle est sûre qu'il a dû démonter et vendre des pièces détachées de voitures qui auraient servi à l'enlèvement des fillettes. Claude Thiraud, à son côté, expliquait que Dutroux lui avait parlé d'un Tagliaferro à liquider. 9 novembre 1995, la police slovaque répond que Dutroux est inconnu chez elle. La police allemande avait répondu la même chose peu avant. Fin novembre 1995, Bernard Weinstein, complice de Dutroux depuis les années 80, disparaît de la circulation. Dutroux a expliqué que c'est à cette période qu'il a tué à coups d'Aldol avec Michel Martin, après l'avoir séquestré plusieurs jours dans une des caves qu'il avait lui-même aménagées. 29 novembre 1995, Madame Troc souhaite un procès verbal des déclarations faites par les informateurs. Les gendarmes lui expliquent que ce sera vraisemblablement impossible car ces informateurs sont terrorisés par Dutroux. 6 décembre 1995, Dutroux se rend à la police de Charleroi pour une audition par l'inspecteur D. Il s'y est rendu de son plein gré, certain que son complice gardera le silence. Pourtant, il est arrêté car la police communale de Charleroi veut l'entendre dans le cadre de la séquestration de trois complices et d'un vol de camion. Il reste en détention préventive jusqu'au 20 mars 1996. Pendant ce temps, selon lui, Julie et Mélissa vont mourir de faim dans sa cave à Marcinelle, un quartier populaire de Charleroi. 8 décembre 1995, le juge Laurent délivre des mandats de perquisition à la police de Charleroi pour aller visiter les habitations de Marc Dutroux. 11 décembre 1995, le gendarme René Michaud se rend chez le juge Laurent afin de le convaincre de lui confier les mandats de perquisition remis à la police. Ce même jour, le policier D reçoit un appel du juge Laurent lui demandant de rendre les mandats de perquisition. Un gendarme constate fortuitement le passage de Dutroux au palais et informe la substitute des soupçons pesant sur lui. Madame Troche contacte le juge Laurent qui ne fait aucun rapprochement avec la lettre qu'il a reçue le 5 septembre de la mère de Dutroux. 12 décembre 1995. Le gendarme Michaud reçoit les mandats de perquisition du policier D et refuse qu'il participe à la perquisition chez Dutroux. Cette perquisition ne donnera rien, comme les autres effectuées par Michaud dans les différentes affaires liées à Dutroux. Le 13 décembre 1995. Perquisition très superficielle, plutôt une simple visite, dans plusieurs domiciles de Dutroux, mais 99 cassettes vidéo et différents documents sont tout de même saisis. Le gendarme Michaud est allé au domicile de Philippeville, près de Marcinelle, avec des collègues, en présence du serrurier Lejeune, qui entend les voix d'enfants, alors qu'il est à la recherche d'enfants. Il criera « Taisez-vous ! » Michaud visitera seul la cave, alors qu'il est d'usage que les enquêteurs visitent ensemble chacune des pièces, et enfin Michaud oubliera de se munir d'un appareil photo. La plupart des cassettes n'avaient toujours pas été visionnées en 1996 quand Dutroux sera enfin arrêté. Si elles l'avaient été, il aurait certainement été mis hors d'état de nuire bien plus tôt. Sur certaines, on le voit posé devant ses caches et montrer le mécanisme d'ouverture. Sur d'autres, il est en train de violer des filles jeunes. Le 14 décembre 1995. PV d'enquête au sujet du témoignage d'une femme, Anne H., qui dit avoir l'information selon laquelle Mélissa Russo était passée par le nightclub Le Vénus à Rotterdam. Un de ses amis, qui vit à Rotterdam, aurait vu Mélissa le 15 ou le 16 septembre dans un bar de la ville. le 19 décembre 1995, deuxième perquisition ratée de Michaud au domicile de Dutroux. C'est là qu'il dit avoir entendu des voix d'enfants qu'il a attribuées à des enfants dans la rue. Il serait étonnant, que Julie et Mélissa aient survécu sans manger, sans chauffage et sans électricité depuis 3 mois. Fin 1995, affaire des Mercedes blanches qui tournaient dans la région de la Louvière et dont les occupants cherchaient, selon plusieurs témoignages reçus à l'époque. Des enfants étaient suivis à la sortie des écoles et photographiés à Mons, la Louvière, Charleroi, Couvain, Thuin, Chimay et Beaumont. Le gendarme Christian Dubois de la Louvière enquête et apprend que ces véhicules appartiennent à la société de ferraillage ASCO, installée notamment à Aunesy depuis 1994. Un informateur confie également à Dubois que l'ASCO est mêlée à du trafic d'enfants séquestrés un temps en Belgique avant d'être envoyés à l'étranger. 10 janvier 1996, le parquet de Charleroi adresse au parquet général de Mons un rapport faisant suite à une demande de l'ONSS qui souhaite consulter le dossier Dutroux, qui bénéficie, comme on l'a vu, d'une pension d'invalidité. Le 25 janvier 1996, après l'interception de Dutroux, les gendarmes interrompent l'opération Othello et font rapport au procureur du roi Marchandise. Celui-ci classe Othello définitivement le 31 janvier 1996. Le 12 février 1996, rédaction d'une note interne de la gendarmerie sur les actes, sur les attaques, sur les transports de fonds. Cette note sera interceptée par le commandant de brigade et jamais transmise. Février 1996, une jeune femme de 28 ans, Nathalie W., se présente à la police de Bruxelles. Elle explique que son père a commencé à la violer quand elle avait 6 ans et l'a livrée à un réseau pédocriminel, des amis à lui, pour des partouzes qui se déroulaient dans des villas. La police a refusé de noter la participation des autres adultes que son père et elle est partie sans signer sa déclaration tronquée. Le 1er mars 1996, le PV 101-702/96 de la brigade Ducle, rédigé par Marc Toussaint, qui l'a déposé en main propre au greffe, est retiré sur ordre de la gendarme LCPV par le gendarme L. Ce PV parle d'informations sur la vague d'attaques sur les transports de fonds à cette époque. 16 mars 1996, disparition de Laurence Wojcik, 23 ans, du magasin Gel 2000 à Charleroi, est retrouvée décédée, ligotée et bâillonnée comme Anne et Effieux. Elle aurait été lestée de béton et jetée vivante dans la Sambre. En 1999, deux types ont été accusés du crime. Elle aurait été enlevée d'un cambriolage, puis violée et tuée. Il était question de joindre ce dossier au dossier Dutroux. 20 mars 1996, libération de Marc Dutroux après 106 jours de détention préventive. Dutroux affirme que c'est à ce moment qu'il retrouve Julie et Mélissa mourantes. Julie serait morte le jour même et Mélissa le 24 mars. 19 avril 1996, Niou la connaissance qu'un certain Walsh est en possession de 5000 pilules d'XTC et de 10 kg d'amphétamine. 23 avril 1996, Newell dénonce les faits en tant qu'informateur au gendarme Vanesse, gendarmerie de Dinan, alors que Vanesse parle de 5000 pilules d'XTC, les gendarmes de la BSR de Bruxelles interceptent la cargaison et saisissent 15 kg d'amphétamine. Les 5000 pilules d'XTC ont disparu. Les gendarmes de la BSR de Bruxelles n'embarqueront plus. C'est Newell qui entre en possession des pilules, par quel miracle. 25 avril 1996, dans une affaire séparée, Gérard Vanesse mène une perquisition chez Michel Fourniret, sur commission rogatoire internationale de la SRPJ de Reims, suite au vol de pistolets commis par Fourniret en 1993 au poste de police de l'air et des frontières, à Givet, dans les Ardennes. Fourniret n'a jamais été condamné pour cette affaire. 3 mai 1996, disparition de Liam van den Braden, 2 ans et demi. 8 mai 1996, l'assistante sociale dresse un rapport sur Dutroux qui est venu le voir spontanément et qui nie être concerné par les faits qu'on lui reproche. 28 mai 1996, enlèvement de Sabine Dardenne, 12 ans, sur le chemin de l'école à Quin, près de Tournai. Elle a toujours dit n'avoir vu que Dutroux le temps de sa séquestration, c'est-à-dire environ 3 mois. 3 mai 1996, Vanesse mentionne dans son carnet un échange d'informations avec la police française au sujet d'enlèvement d'enfants dans la région de Dinan. Il s'interrogeait. Michel, suspect, en évoquant Fourniret, qui vivait alors à Ville-sur-Lume dans les Ardennes, puisque selon lui, Nul n'avait rien à voir avec les enlèvements d'enfants. Juin 1996, Nul reconnaît avoir invité pour dîner chez son ami Annie Bouty, Dutroux et Le Lièvre. Ce mois de juin 1996, Dutroux et Le Lièvre font un voyage en Slovaquie. D'autres vont suivre durant l'été. C'était leur grande destination à ce moment-là. 10 juin 1996, 10h50, Nul téléphone à la gendarmerie de Dinan, 374 secondes. 10h59, Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi, 88 secondes. 11h04, Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi, 98 secondes. 11h06, Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi, 219 secondes. 11h10, Nul téléphone à la gendarmerie de Charleroi, 228 secondes. 23 juin 1996, conférence de presse des parents Russo et Lejeune sur les manquements au niveau de l'enquête et leur mise à l'écart par la juge d'Outreway. 25 juin 1996, mise à l'instruction de l'enlèvement de Sabine chez le juge d'instruction Tolbeck. 26 juin 1996, le juge Tolbeck prend contact avec le BCR de la gendarmerie. Une réunion est organisée. L'adjudant V déclare avoir un suspect et s'occupe de tout, mais il ne communique pas le dossier Othello au juge. 29 juin 1996, Nul remet 105 pilules d'XTC à Le Lièvre. Les faits se déroulent au domicile de Nul en présence de Dutroux. Le même jour, le témoin Nathalie W, venu en février dénoncer le réseau pédocriminel de son père, a été suivi par une Mercedes dans laquelle se trouvait son ancien souteneur, Vincent, et un autre type qui l'ont bloqué au feu rouge. Vincent est monté et l'a emmené dans une maison de Charbic à Bruxelles, où elle a été violée par Vincent, qui l'avait marqué d'un V au bras quelques mois auparavant. Elle a mis une dizaine de jours avant d'aller en parler à la police. Le 6 juillet 1996, remise de 100 pilules d'XTC par Nul à Le Lièvre. Toujours selon la défense de Michel Nul, l'ecstasy devait permettre d'aller plus en avant dans le trafic et de remonter notamment la filière de Michel Le Lièvre, précise un média lors du procès en 2004, lors duquel Nul n'a été jugé que pour le trafic de pilules. 7 juillet 1996, nouvelle audition de Nathalie W. qui dépose plainte pour l'agression du 29 juin. Elle explique que depuis qu'elle a témoigné en février, alors qu'elle était venue porter plainte contre le réseau de son père, elle subit de plus en plus de pression et d'agression par ce réseau. Elle est harcelée toutes les nuits par le téléphone et menacée de mort. Dans une lettre, elle donne des précisions sur les premiers viols à l'âge de 6 ans, la complicité de sa mère, partie du domicile avec les deux frères quand elle avait 9 ans, le début des viols collectifs organisés par son père avec ses copains du Rotary de Waterloo. Elle explique qu'elle a tenté de parler à plusieurs personnes à l'époque, toujours en vain. Depuis qu'elle est adulte, les viols collectifs n'étaient plus organisés qu'à Noël, chez son père, avec d'autres victimes, puis elle est partie vivre en Espagne. Elle dit qu'elle a été 3 fois enceinte et a dû avorter les 3 fois. Nathalie W. désigne de nombreux lieux, notamment à Bruxelles, comme le bar chez Dolores, le Dolo. Il y avait d'autres enfants victimes et qui étaient un lieu de passage de nombreux étrangers non francophones ou néerlandophones, anglais, allemands, nous ne savons pas, et désigne Michel Forgeau, le tenancier du bar. Elle dit avoir reconnu Nul à la télé. 17 juillet 1996, l'assistante sociale de Dutroux dresse un second rapport très favorable après un nouveau contact où Dutroux lui explique qu'il est victime de sa propre innocence et de sa naïveté.